savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotin.
Bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui nous parlons d'une série télé qui fait l'événement en cette rentrée 2020 sur France Télévisions. Bonjour Jean-Xavier de Lestrade.
Bonjour.
Donc une série, je le disais, diffusée fin septembre et toujours disponible sur le site de France Télévisions. Donc c'est une mini-série, Laetitia, en 6 épisodes, inspirée d'un meurtre qui a bouleversé la France en 2011. Celui de Laetitia, une jeune fille de 19 ans, violée, tuée, dépecée dans la région nantaise. Alors on pourrait, comme la presse a pu le faire à l'époque, parler de faits divers, parler de mauvaises rencontres entre cette jeune fille au parcours jalonné de violence et son meurtrier. Tony Meillon, au parcours non moins fracassé. On pourrait parler d'accident, d'un accident qui aurait viré à la tragédie. Mais vous, Jean-Xavier de Lestrade, vous vous êtes inspiré d'un livre magistral signé par l'historien Yvan Jablonka, prix Médicis 2016, Laetitia ou la fin des hommes, pour donner une voix, une intelligence, une sensibilité, une dimension quasi héroïque. Et on en reparlera à Laetitia, cette jeune femme qui a été comme effacée par sa fin si violente et tragique. Vous racontez l'histoire de tous les personnages qui l'entourent, entre autres de sa sœur jumelle Jessica. Vous racontez aussi l'anatomie d'un fait divers, et entre autres d'un fait divers qui a été instrumentalisé par l'exécutif à l'époque, en l'occurrence le président Sarkozy. Alors pour l'affaire Laetitia, on pourrait se cacher derrière le mot de Nietzsche, humain trop humain, voire humain horriblement humain. Mais vous, Jean-Xavier de Lestrade, vous en faites un récit exemplaire pour montrer que la rencontre sanglante dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011 entre Laetitia et Tony Meillon est moins le fruit du hasard que d'une longue généalogie de la violence et entre autres de la violence faite aux femmes. Je voulais vous poser deux questions. Le livre d'Yvan Jablonka, quand est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que c'était au moment de sa sortie? C'est un livre terrible. Est-ce que pour vous, c'était une évidence tout de suite que ça pouvait se prêter à une adaptation?
Alors, le livre, je crois que je l'ai acheté premier jour de sa publication, quasiment. J'avais lu un ou deux papiers dans la presse critique et immédiatement, j'avais été attiré par son propos, par ce qui était décrit. Donc, je l'ai lu très rapidement, alors que j'étais en train de le lire. Ça faisait 3-4 jours que je l'avais. Je pense que j'avais lu déjà 300 pages. J'ai reçu l'appel d'une productrice qui s'appelle Judith Louis, qui m'a dit « Je viens de terminer un livre absolument prodigieux. Il faut en faire une fiction pour la télévision. Et il n'y a que toi qui peux le faire. » Et elle me dit, ça s'appelle Laetitia, la fin des hommes. Je dis, mais j'ai le livre sous mes yeux, je suis en train de le lire au moment où tu appelles. Et en fait, je suis en train de penser exactement l'inverse que toi. Je dis, surtout, il ne faut pas en faire une série télé. Surtout, il ne faut pas l'adapter. Surtout, il ne faut pas toucher à ce livre.
Pourquoi? Parce qu'il est parfait.
Parce qu'il y a tellement de qualité, c'est tellement la bonne distance. J'avais l'impression qu'on ne pouvait qu'abîmer le récit qu'avait fait Yvan Jablonka de Laetitia. On ne pouvait que l'abîmer si on mettait des images, des sons là-dessus. Comme si on allait restreindre un peu l'imaginaire du lecteur, du public. Et immédiatement aussi, je pensais aux gens qui restent, c'est-à-dire que sa sœur jumelle, Jessica, à la famille, aux amis qui l'ont connue, ils ont tellement vécu de tragédies, de drames, que comment faire une adaptation pour la télévision sans que ce soit une exploitation spectaculaire de leur douleur? Et je me disais, est-ce que c'est possible? Est-ce que vraiment, est-ce qu'on a le droit de faire ça?
Et qu'est-ce qui vous a convaincu que ça l'était?
En fait, j'ai terminé le livre et je l'ai posé. J'étais toujours convaincu qu'il fallait pas y toucher. Et puis, bon, voilà, on se refait pas, je crois. Il y a des images qui ont commencé à surgir, à me hanter, des bouts de scène qui sont mis à vivre dans ma tête. Et j'ai commencé à penser l'inverse de ma conviction à la lecture du livre. C'était que, oui, il fallait penser aux proches, fallait penser à la sœur jumelle, fallait penser à ceux qui avaient vécu ce drame. Mais à plein d'endroits, ce drame était leur drame à eux, c'était leur vie, mais c'était aussi la nôtre, à nous, collectivement. Et que c'était notre devoir que de la raconter. Et c'était même plus qu'un devoir, c'était une nécessité que de devoir la raconter, parce que ce n'était pas simplement l'histoire de Laetitia, c'était notre histoire. Encore une fois, c'était quelque chose qui nous concerne, nous tous, collectivement. Et donc, il fallait passer au-delà de cette prévention que je pouvais avoir vis-à-vis des personnes toujours vivantes, et essayer de relever le défi de mettre des images et des sons, parce que il fallait le faire.
Et le défi de l'incarnation, bien sûr. Alors, Jean-Xavier de Lestrade, vous allez nous raconter plan par plan les 10 premières minutes de la série Laetitia, première bobine. Extérieur nuit, on entend les bruits de la campagne. Voilà, il y a un lampadaire qui apporte un éclairage un peu chancelant, et puis une jeune fille arrive sur un scooter.
Oui, on entend le bruit du scooter. Là, c'est cette jeune fille, elle paraît très jeune, elle a 18 ans. Elle s'arrête devant le portail d'une maison qui pourrait être sa maison. Elle enlève son casque et surtout elle enlève son... elle a un peu de maquillage, du rouge à lèvres, pas très prononcé, mais un petit peu, mais hop, elle l'enlève de sa bouche. Elle marche et elle pose son scooter et elle rentre dans la maison.
Voilà, elle rentre dans la cuisine, oui. Et on voit tout de suite une ombre derrière elle. C'est un homme sans visage. Mmh. Je dis c'est un homme parce qu'on va entendre une voix masculine, oui. Et c'est pas un hasard si cette première voix masculine qu'on entend n'a pas de visage.
Exactement, elle se sert à boire. C'est le milieu de la nuit, il est peut-être minuit. Elle rentre comme une jeune adolescente rentre d'une sortie avec des amis.
T'as vu l'heure? T'étais où?
Voilà. Arrive de dos, une sorte qui est quelque chose de très menaçant. T'as vu l'heure, t'étais où? Qui est une pression très forte. Quelqu'un qui pose des règles. Quelqu'un qui pose un cadre très précis. Et immédiatement, là, on entend des pleurs. Cette jeune fille est montée dans sa chambre. Elle a fermé la porte. Elle prend un cahier qui est caché, à moitié caché dans une armoire, et elle va jeter quelques mots dans ce cahier, mais on sent sa rage, son émotion.
Et on voit les mots et on reverra cette séquence qui est importante, et elle écrit « Il n'y a pas que moi qui mens ». Avec des fautes d'orthographe, on peut lire un peu aussi ce qu'il a écrit au début, oui. Mais c'est son exutoire.
Oui, il n'y a pas que moi qui mens. Ça pose tout de suite, en fait, la dialectique qu'il peut y avoir entre cette jeune fille qu'on sent, elle a une énergie, une vitalité, et en fait, autour d'elle, il y a comme des ombres menaçantes. Des ombres qui sont des gens qui sont là pour lui rappeler la loi, ce que je disais au début, t'étais où, t'as vu l'heure, donc le cadre très précis. Mais on sent que ce cadre qui est posé, qui est celui des adultes, c'est la vie d'adulte, il faut rentrer dans ce monde-là, de la vie d'adulte. On peut y entrer dans ce monde si on a confiance dans ce monde. Or, elle sait profondément, et c'est toute sa vie qui va le raconter, mais là encore plus, elle sait qu'on ne peut pas faire confiance à ce monde-là.
Un bandeau apparaît, 3 mois plus tard, mercredi 19 janvier 2011, 7h45 du matin. Et puis on va voir une jeune fille qui n'est pas Laetitia, mais qui est sa sœur jumelle Jessica, voilà, elle se met à crier parce qu'elle voit quelque chose, mais quoi ? Il n'y a pas de contre-champ.
Oui, elle se met à marcher, c'est le tout petit matin, il y a une petite lueur, et elle ouvre le portail qu'on a vu dans la scène précédente, et elle se met à crier.
Laetitia ! Laetitia !
Elle se met à crier, Laetitia, 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 sans que nous, en tant que spectateurs, on sache ce qu'elle a vu, ce qu'elle a aperçu, on ne sait pas. Comme vous le rappeliez, il n'y a pas de contre-champ.
On va deviner plus tard que c'est un scooter, en fait.
On devinera plus tard, mais on est avec elle. J'avais envie qu'on soit dans ce mystère-là. Qu'a-t-elle vu
Thilo.
Quoi ?
Laetitia, son scooter.
Quoi ?
Il est tombé.
Comment ça a tombé ?
Il est tombé.
Où ?
Là, devant.
Voilà, j'ai pas envie qu'on la quitte.
Devant la maison ?
Il fallait qu'on soit avec elle dans la manière dont elle est bouleversée. Et elle rentre précipitamment à la maison. Elle va chercher...
On entend le bruit des graviers.
Voilà, donc on apprend qu'elle a vu un scooter. Elle apprend que le scooter Laetitia, qu'on avait vu dans la première scène, on apprend que ce scooter est par terre devant le portail de la maison.
Et il y a l'introduction d'un troisième personnage, donc un homme âgé, joué par Sam Carman. On apprendra un peu plus tard qu'il s'appelle Monsieur Patron.
Il a l'âge prédestiné, on n'aurait pas pu l'inventer dans un scénario.
Il a l'âge d'être leur père.
Il a l'âge d'être leur père. Mais c'est pas leur père, c'est pas leur père biologique, en tout cas c'est leur père d'accueil. En fait, Laetitia et Jessica sont deux enfants qui sont placés dans une famille d'accueil. Enfin, deux jeunes adolescentes qui sont placées dans une famille d'accueil. Et lui est le référent, c'est le père d'accueil. C'est celui qui les a accueillis. Donc qui les a sous sa garde.
Bon, vas-y toi, vas-y. Non mais... Ta soeur, je m'en occupe. Je vais la trouver, t'inquiète pas. Allez, t'en fais pas, vas-y. Loupe pas tes cours.
Alors pendant que Jessica monte dans le car scolaire, on va entrer dans la maison, on va découvrir Madame Patron. La femme de la famille d'accueil. Vous avez vraiment, Jean-Xavier de Lestrade, repris fidèlement la narration d'Yvan Jablonka.
Oui, disons que... En fait, je ne sais pas si on a repris exactement la narration d'Yvan Jablonka. Mais ce qui était important, c'est que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est l'incarnation, c'est-à-dire d'avoir Laetitia vivante, si on peut employer ce terme. C'était vraiment ça. Mais effectivement, ça démarre presque comme un polar classique. Au fond, voilà, il y a une jeune fille a disparu. La famille qui est là s'inquiète. On ne sait pas ce qui s'est passé. Une fugue ou pas, ou quelque chose de plus grave. Et on prévient la gendarmerie.
Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est Laetitia. Pourquoi Laetitia ? On ne sait pas. Elle ne répond plus, rien. On ne sait pas où elle est.
Là, on est avec Jessica qui arrive à l'école, qui arrive à l'école au lycée. Elle est scolarisée au lycée, elle est arrivée. Et ses amis la voient qu'elle est, totalement bouleversée. Parce que c'est vrai qu'elle est partie, elle a vu le scooter par terre, mais elle est allée quand même à son lycée. Elle va en classe.
Et voilà. C'est important aussi de montrer qu'elles sont insérées, qu'elles ont beaucoup d'amis.
Bien sûr, bien sûr.
Moi, j'ai l'impression que vous avez tout posé dès le départ. Tout est là.
Oui, poser le cadre d'une famille de jeunes filles qui vont à l'école, qui sont totalement scolarisées normalement, et qui ont une vie sociale, qui vont apparemment plutôt bien, dont la vie ne diffère pas tellement de la vie d'autres adolescentes. C'est vrai, c'était important de poser ça assez vite. Et le premier plan, alors là on entend...
Je suis l'adjudant-chef France Touchet. J'appartiens à la section de recherche et atteinte aux personnes. C'est moi maintenant qui vais coordonner l'enquête sur le terrain. Pour ça, j'ai besoin de recueillir le plus d'informations possible sur ce qui s'est passé pour votre sœur dans les dernières 24 heures.
Jessica, elle est convoquée.
Vous comprenez ce que je dis ?
Elle est extraite
Alors dites-moi,
de sa classe. Et elle est convoquée à la gendarmerie devant l'enquêteur, Franz Touchet.
Mademoiselle, je comprends que ce soit difficile, mais dans ce genre de situation, il faut aller extrêmement vite, c'est important.
Vous êtes servi des PV, Jean-Xavier de l'Estrade. Vous avez vraiment reproduit fidèlement les échanges.
Alors.
En adaptant peut-être.
Voilà.
Avec des ellipses.
Voilà, mais oui, des fois on va un peu plus vite, forcément. Mais oui, c'était très important. Il y avait déjà beaucoup d'informations dans le livre d'Ivan Jean Blanca, puisqu'il avait fait une enquête extrêmement détaillée. Il a rencontré plusieurs témoins. Mais moi, j'avais vraiment désiré avoir accès au dossier d'instruction, d'avoir donc accès à tous les PV. Ouais. D'audition de tous les témoins. Et c'était très important d'avoir au moins ces 40 premières heures d'enquête où énormément de gens sont interrogés. Que vont-ils raconter? Que savent-ils? Il y a presque 150 personnes qui sont interrogées. Il y a 150 PV d'interrogatoire, des gens qui parfois sont interrogés plusieurs fois. Donc on arrive, ça permettait de savoir en même temps que la gendarmerie, parce que savait la gendarmerie à ce moment-là, d'être un peu dans leur point de vue et d'avancer en même temps qu'eux. Et c'était aussi important d'être aussi très proche du réel, en l'occurrence. Après, parfois, on fait des petits raccourcis. Là, par exemple, l'enquêteur Franz Touchet, qu'on entend, il est là tout de suite. Dans la réalité, il est arrivé 24 heures plus tard. C'était un autre gendarme qui était en charge au tout départ. Mais bon, pour des besoins de dramaturgie... On a fait un seul personnage.
Et là, il me semble que dans cette introduction, Sophie parlait tout à l'heure de l'extrême précision, mais il y a aussi tous ces liens invisibles qui sont tressés dès le départ. C'est-à-dire que, par exemple, les enquêteurs posent les questions à Madame Patron, mais c'est Monsieur Patron qui répond.
Oui.
Puis le premier couple qu'on découvre, c'est pas Monsieur et Madame Patron, c'est Jessica et Monsieur Patron. Et on va découvrir qu'il y a une vraie logique à ça.
Oui. On a essayé de poser, j'ai essayé de poser très vite à la fois les apparences de quelque chose qui est normal, d'une famille d'accueil, qui est deux jeunes filles, voilà. Mais il n'y a pas un seul moment, un seul bout de séquence qui n'a en soi ses propres ombres ou son sous-texte. Et c'était très subtil. On sait qu'on navigue tout le temps... dans un tournage, on sait jamais à quel point il faut appuyer, ne pas appuyer, montrer, ne pas montrer, parce que dans le fil du montage, ensuite, évidemment, le spectateur verra agir en fonction de ce qu'il a vu avant, ce qu'il verra après. Et donc, là, dans ce qu'on devait un peu installer, c'était quand même très, très, très subtil hein, dans cette circulation d'énergie qu'il y a dans la famille, dans le couple patron, les relations entre Jessica, entre Monsieur Patron, ou Monsieur Patron et Laetitia dans la toute première scène. Il fallait qu'on sente un léger dysfonctionnement au milieu de ce tableau assez banal et classique.
Et qui pourrait presque par moments sembler idyllique. C'est vrai que la question des premiers épisodes, en fait, elle est double. C'est qui porte le récit et qui est écouté. Y compris, bien sûr, écouté par les gendarmes. Alors, avant de terminer cet exercice, avant de terminer la première bobine, je vous propose de la terminer avec une scène qui est très impressionnante. Donc, intérieur jour, c'est le moment où les gendarmes fouillent la chambre de Laetitia. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Jean-Xavier de l'Estrade, mais il y a quelque chose de presque monstrueux. Dans cette scène, parce que
sinon, on a rien touché
cette monstruosité, c'est aussi l'idée que c'est toute une vie là qui va être qui va être dépecée, qui va être mise à nu.
Oui, et la caméra reste assez longtemps. Il y a un lent travelling qui avance vers le visage de Jessica. On ne sait pas trop ce qu'elle voit à ce moment-là, mais on sent que elle voit une pièce et à l'intérieur, on entend en off le bruit de gendarmes qui fouillent. Mais pour moi, c'était très important de le voir à travers ses yeux. C'est quand même une forme de viol de l'intimité. Immédiatement, non seulement elle a sa sœur jumelle qui a disparu, il y a une inquiétude énorme. Et puis, l'espace vital, sur sa propre espace, l'espace de ses les chambres, la chambre de sa sœur, envahie d'étrangers, qui fouillent.
Et qui prennent tout. Ils prennent des choses. Et à un moment, il y en a un gendarme qui montre des feuilles à un autre en disant regardez ça et qui les emporte. On ne sait pas ce qu'ils emportent.
Oui, on ne sait pas ce qu'il y a. Et puis on ne sait pas si Jessica comprend bien ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire. Mais en tout cas, ça me frappe toujours, ce côté-là très très invasif, très intrusif qu'il y a. Il y a une forme de viol, quoi. En tout cas, c'est une violence. C'est une violence qui est faite et qui est immédiate. Et c'est vrai que essayer d'insister là-dessus dans la séquence.
Voilà, je vous propose Jean-Xavier de Lestrade d'arrêter ici l'exercice. Voilà.
On pourrait faire toute la série.
Pour ne pas déflorer la série. Voilà, les auditeurs de RFI peuvent voir la suite sur le site de France Télévisions. Je vous entendais parler tout à l'heure. À quel moment vous avez compris ce qu'est un féminicide? Je voudrais vous citer, avant peut-être quelques mots de Barthes, qui a beaucoup travaillé sur le fait divers, et entre autres un texte magnifique qui s'appelle « Structure du fait divers ». Je vous en lis juste un extrait. « Voilà un assassinat. S'il est politique, c'est une information. S'il ne l'est pas, c'est un fait divers. L'assassinat politique est par définition une information partielle. Le fait divers, au contraire, est une information totale. Il contient en soi tout son savoir. » Point besoin de connaître rien du monde pour consommer un fait divers. Il ne renvoie formellement à rien d'autre qu'à lui-même. Là, je trouve que si on enlève assassinat politique, si on met à la place féminicide, on est vraiment au cœur du sujet.
Oui, complètement. Après, c'est vrai que fait divers, c'est quelque chose qu'on emploie pour désigner, en fait, une multitude de choses et rien du tout, en fait. C'est presque, dans les journaux, c'est la rubrique qui récolte tout et rien.
C'est juste au-dessus des chiens écrasés.
Oui.
Et c'est l'idée qu'il y a un hasard. Et vous, ce que vous montrez dans Laetitia, c'est qu'il n'y a pas de hasard.
Ben oui, c'est-à-dire que, avant de penser à féminicide, disons que ce qui me frappe, c'est que, dans toute forme de récit, enfin, chaque fois qu'on parle de cette histoire, on est presque dans l'obligation de commencer par le meurtre. Et les premiers mots qui sont collés à Laetitia, immédiatement, c'est Laetitia qui a été assassinée brutalement ou sauvagement. On ajoute souvent découpée ou dépecée. Donc, immédiatement, quand on parle de Laetitia, viennent des images de violence dont elle a été victime. Et la démarche d'Iva Jablonka était, vous l'avez rappelé, était d'essayer de dire, mais cette jeune Laetitia, elle ne peut pas se résumer à sa mort. En fait, elle est vivante pour le public par sa mort. Or, ça, ce n'est pas possible et c'est même intolérable. Donc, il faut essayer de lui donner vie. Et ça, c'était le premier propos. Et quand on déroule cette vie, quand on déroule le parcours de vie depuis sa naissance, on s'aperçoit, on comprend très bien que la rencontre entre Laetitia et Tony Meillon, cette rencontre qui finit par une explosion de violence inouïe, ce n'est pas une rencontre de hasard, absolument pas. Quelque part, elle est programmée depuis très longtemps. Mais en même temps, même si elle est programmée, ce n'est pas non plus une fatalité. C'est-à-dire que, à différents moments, elle aurait pu ne pas avoir lieu, presque même jusqu'au bout. Mais c'est comme si la société avait manqué plusieurs intersections. Donc c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que des crimes comme cela, ce ne sont pas des crimes du hasard, ce ne sont pas des crimes, comme l'a rappelé à l'époque le président de la République, des crimes qu'on doit au laxisme des magistrats, par exemple, ou au fait qu'il y ait un homme monstrueux, que de toute façon, on peut rien pour lui, il faut l'enfermer à prison à vie, et on aurait dû l'enfermer depuis très longtemps en prison à vie, et c'est la seule manière d'éviter de tels drames, c'est de gérer les criminels en les enfermant. Non, en fait, la réalité, elle est infiniment plus riche, plus complexe et plus subtile que celle-là. C'est que elle prend racine dans l'enfance de ces deux personnes, de Laetitia et de Tony Meillon. Alors, à l'arrivée, effectivement, on a une jeune femme, on a un homme. Tous les deux enfants sont victimes du même type de violence. Mais
c'est-à-dire que leurs mères respectives, la mère de Jessica et Laetitia et la mère de Tony Meillon, étaient elles-mêmes battues,
oui,
victimes de violences.
Oui, ce sont oui. Des... Et si on remonte très loin, enfin si on remonte dans la famille de Laetitia et Jessica, les deux parents, le père et la mère, Franck et Sylvie, eux-mêmes, tous les deux viennent de familles où il y a énormément de violence et d'alcool. Et le couple se forme et reproduit cette violence à l'intérieur du couple. C'est-à-dire que le mari va être violent avec sa femme, très violent, et va quasiment la détruire. Et donc les deux jeunes filles sont vivent dans ce les premiers mois, les premières semaines, les premiers mois, les premières années de ces de Laetitia et Jessica, c'est cette violence intrafamiliale. Et pour Tony Meillon, c'est aussi le même parcours, c'est-à-dire que sa mère est victime de violences conjugales, mais et lui-même est victime de la violence de son père. Et ils vont devoir s'enfuir, se réfugier dans des foyers. Et lui va quasiment se donner le rôle du protecteur de sa mère jusqu'à ce qu'arrive un beau-père.
Qu'il va détester, bien sûr.
On est dans les schémas.
Et la violence va se reproduire. Moi, il y a une scène que je trouve géniale dans votre film et qui est presque séminale, c'est celle avec la mère de Tony Meillon. Elle est extraordinaire parce que on pourrait penser qu'elle est un peu secondaire et en même temps, pour le dire rapidement, elle dit qu'elle a, aux gendarmes, je crois, qu'elle a trouvé un homme bien. Et en fait, on comprend peu à peu, parce que c'est une scène assez longue, que pour cette femme dont la vie finalement est une chaîne terrifiante de violence masculine, un homme bien, c'est juste un homme qui ne la frappe pas.
Exactement.
Et à ce moment-là, on a presque envie de pleurer. Est-ce que c'était important pour vous? Vous parliez de pédagogie tout à l'heure. Alors j'imagine que travailler pour une télé publique, ça présentait ses contraintes. Mais est-ce que c'était important pour vous que cette série soit diffusée à une heure de grande écoute sur une télé publique?
Oui, oui. C'était au tout début, quand j'ai répondu à Judith Louis, la productrice. J'ai dit, oui, finalement, il faut le faire, mais il faut le faire sur une chaîne du service public, en s'adressant, le but c'est de s'adresser à 4 millions de personnes. Il faut qu'il y ait 4 millions de personnes au minimum pour regarder cette série à l'arrivée. Et c'est ça le but. Et ça ne veut pas dire qu'on va faire des compromis dans la manière de raconter les choses. Non, pas du tout. Mais il faut se donner les moyens pour que s'adresser au plus grand nombre. Parce que voilà, c'est un récit qui nous concerne tous, encore une fois, qui est collectif et qui doit être entendu par le plus grand nombre.
Justement, Jean-Xavier de Lestrade, pour que le film soit pédagogique, j'imagine que c'est un exercice très périlleux, parce que vous êtes un peu sur cette crête entre le sensationnel et le didactique, l'obligation de réalisme et l'obligation de pudeur, parce que si vous êtes totalement réaliste, le film devient un film d'horreur.
Oui, irregardable.
Donc ça, j'imagine qu'on l'a en tête.
Tout le temps, déjà, bon, à l'écriture, qu'est-ce qu'on peut montrer, pas montrer, qu'est-ce qu'on donne à lire, ceux qui vont nous lire déjà sur le scénario, qu'est-ce qui est. Donc, et ensuite, sur le tournage, c'est en permanence parce qu'il y a énormément de scènes certaines scènes sont très violentes et il ne fallait pas occulter la violence, mais en même temps, il fallait pas qu'on soit dans une position de voyeur. Jamais. Et en même temps, je me disais, on est obligé de la montrer. Il y a un moment où la violence, il faut la montrer. On peut pas, parce qu'on doit ça déjà aux victimes. On leur doit cette forme de vérité-là. Et en même temps, encore une fois, oui, il faut pas être un spectaculaire, il faut pas être un sensationnel, il faut pas que cette violence devienne du spectacle et qu'on puisse en jouir.
Il y a toute une question sur le choix des mots. Je ne sais pas si, par exemple, il y a une scène importante où il y a le procureur qui parle au juge d'instruction lorsqu'ils viennent de découvrir une partie du corps de Laetitia dans un étang, remonté d'un étang, et où le procureur dit « je ne peux pas parler de tronc, c'est horrible, je vais parler de buste ». Enfin bon, il parle du choix des mots. Donc lui aussi choisit des bons mots, mais en même temps, il faut dire les choses. Et à l'inverse, il se retrouve face à des gens, des personnes qui n'ont pas les mots, comme je pense au père biologique de Laetitia et Jessica, par exemple. C'était ça aussi, montrer subtilement le rapport au langage.
Oui, bien sûr, c'est très important parce que, effectivement, on s'aperçoit que la famille de Jessica, de Laetitia, la famille de Tony Meillon, c'est des milieux où où la parole est quand même assez empêchée, où les mots sont pas des outils qu'on utilise facilement. Et singulièrement, le père de Laetitia et Jessica, c'est quelqu'un qui emploie un mot pour un autre, qui maîtrise pas du tout le langage.
Et puis c'est aussi l'idée que, enfin, au-delà de la maîtrise du français, se raconter, c'est un truc de classe.
Oui. C'est pouvoir poser des mots sur son histoire, avoir un peu de recul sur sa propre histoire. Évidemment, c'est quelque chose que très peu de gens ont accès à ça. Et c'était aussi le but de la série, c'est que quand je disais tout à l'heure, il y a une nécessité à la raconter, c'est une nécessité à donner du sens à ce qui peut apparaître comme quelque chose d'irrationnel, d'absurde. Le meurtre de cette jeune fille, c'est insensé quelque part au départ. On reçoit cette information, c'est insensé, insupportable. D'ailleurs, ça nous frappe, ça nous envahit émotionnellement, ça nous bouleverse, mais on peut pas y trouver du sens. Alors le politique, il met du sens très simpliste en disant oui, les magistrats, l'accise, machin, tout ça.
Mais en fait, le juge qui l'a laissé sortir est un assassin.
Célèbre phrase. Voilà, mais pas du tout. Pas du tout. Encore une fois, on est très loin de tous les discours simplistes.
Et votre série est très très loin effectivement de tous les discours simplistes, hein, d'où l'intérêt d'avoir autant de temps pour raconter cette histoire. On l'a peut-être pas assez dit. Merci beaucoup, Jean-Xavier de Lestrade.
Merci à vous.
Et on conseille plus que vivement à tous les auditeurs de RFI de voir votre série Laetitia, disponible sur France Télévisions, le site internet de France Télévisions, 6 épisodes de 30 minutes. Voilà, on vous encourage vivement à les voir. Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de mise en scène et de pédagogie dans cette émission, mais ça se voit vraiment, Laetitia, votre série, comme un thriller. Une pause musicale avec une voix singulière, la voix guerrière et séductrice de Janelle Monáe, Pink. Pink like the inside of your baby, pink behind all of the doors. Crazy pink like the tongue that goes down. Maybe pink like the paradise found. Pink when you're blushing inside. Baby, pink is the truth you can't hide. Maybe pink like the folds of your brain. Crazy pink as we all go insane. So here we are in the car, leaving traces of us down the boulevard. I wanna fall through the stars. Getting lost in the dark is my favorite part. Let's count the ways we could make this last forever. Sunny, money, keep it funky. Touch your top it, let it down. Pink Vous êtes bien sur RFI dans tous les cinémas du monde pour parler des sorties cinéma de cette semaine. Alors, Un pays qui se tient sage, hein, formidable doc de David Dufresne sur les violences policières. C'était notre invité la semaine dernière. Vous pouvez l'écouter en podcast. La versatilité du sentiment amoureux, revu par un grand cinéaste coréen, Hong Sang-soo, dans La femme qui s'est enfuie, un film d'animation sur la guerre civile espagnole, sur les traces d'un très grand dessinateur, Josep Aurel. Et quant à vous, Sophie, c'est encore un documentaire que vous nous conseillez. Billy, de James Erskine, raconte l'histoire de la diva noire américaine Billie Holiday. Donc c'était un film qui s'appuie sur des archives audio qu'on croyait perdues, hein, des archives d'interviews de proches de la chanteuse morte en 59.
Well, my friend today is a gal who's the world's greatest jazz vocalist, Miss Billie Holiday.
Hey there, baby, make up your mind, 'cause I've been waiting such a long, long time.
I'd like to write something that is real, you know, really as she is.
Oui, alors c'était l'une des grandes voix, hein, du XXe siècle. Elle en jouait comme d'un instrument lors de concerts intimistes. Mais ce don n'a pas préservé Billie Holiday d'un destin tragique. C'est ainsi que l'on a coutume de résumer la vie de la chanteuse née Eleanora Fagan en 1915 dans une famille noire misérable de Philadelphie. Le chant lui permet d'échapper à la prostitution et grâce à son talent, elle se produit avec les plus grands jazzmen de son temps, Count Basie, Artie Shaw, Dizzy Gillespie ou Louis Armstrong. Mais Lady Day collectionne les amants et maris violents. Elle boit, elle se drogue et elle meurt de ses excès en 1959, vous l'avez dit, à l'âge de 44 ans.
The things that I sing, they have a meaning. Southern trees bear strange fruit.
Alors voilà la version connue, hein, de la vie de Billie Holiday. Le documentariste britannique James Erskine a retrouvé des documents rares, hein, vous le disiez Elisabeth, ce sont des archives audio inédites, hein. Elles ont été réalisées dans les années 70 par une journaliste américaine avec des proches de la chanteuse, près de 200 heures de témoignages de Charles Mingus, Tony Bennett, Count Basie, des avocats et puis même aussi les agents du FBI qui avaient arrêté Billie Holiday pour consommation de drogue, hein. Elle avait été incarcérée pendant un an pour ce délit. James Erskine utilise ces bandes inédites pour dresser un portrait différent de la diva du jazz.
Les gens qui délivrent le label de victime sont en général ceux qui ont le pouvoir. Billie, qui était une femme noire, originaire d'un milieu très défavorisé, une fille illégitime, n'a pas pu échapper à cette étiquette de victime qu'on lui a accolée.
Have her own voice, or to not be a victim, if you want. Everybody in that society, in a way, is a victim of the bigger patriarchal society, but what is really important to portray about Billie is we're talking about Billie now.
On parle de Billie maintenant, 61 ans après sa mort, mais c'était une battante. Elle s'est battue toute sa vie et elle a toujours chanté la même chanson. Même quand elle chantait l'amour, c'était « Tu peux m'avoir, tu peux m'utiliser, mais tu ne me possèdes pas ».
She's saying, you can have me, and when she sings love songs, she's saying you can use me, but you don't own me.
Hey there, daddy, make up your mind, 'cause I've been waiting such a long, long time. Now, baby, or never.
Et ce documentaire, Billie, montre que la chanteuse a dérangé les puritains, évidemment, les hommes, enfin, qui étaient au pouvoir, hein, les blancs, le pouvoir blanc de l'époque.
She sang the truth, she paid the price.
Elle chantait la vérité et elle en a payé le prix. Quand elle interprète « Now or Never », elle parle de sexe, ce qu'à l'époque personne ne faisait. Elle parle de liaisons violentes, tout en sachant qu'elle risquait de subir les coups de son amant le soir même.
« Get beaten later in the same day, perhaps. » And she sings the truth about racism in America, and then she becomes...
Et elle dénonce le racisme aux États-Unis, s'exposant ainsi à des représailles. Dans le milieu du jazz, tout le monde touchait à la drogue. Et pourtant, on n'a pas mis en prison les grands musiciens. Billie, elle, est allée en prison un an. C'était une cible facile pour les gens mal intentionnés.
So, she's an easy target for evil men.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves.
Voilà, alors elle n'était jamais résignée à Billie Holiday. Elle a même imposé chaque soir cette chanson protestataire, hein, Strange Fruit, dans lequel elle reprend un poème composé dans les années 30 et elle compare les victimes noires des lynchages dans les États du Sud des États-Unis à de drôles de fruits ensanglantant les arbres.
She was the first activist. I'm sorry.
C'était la première militante antiraciste. Maintenant, les gens ont coutume de lier la chanson Strange Fruit au mouvement des droits civiques. Mais en fait, cette chanson existe grâce à Billie Holiday et elle l'a chantée 20 ans avant ce mouvement. Tous les soirs, elle l'interprétait sur scène devant un public blanc. C'était une battante. Elle a obéi à sa conscience.
She's a fighter, man. She's throwing out the punches.
Voilà, alors je vous conseille vraiment le visionnage hein, du documentaire Billie, qui utilise des clichés, des vidéos colorisées. James Erskine rend justice à la diva jazz, mais aussi à la journaliste Linda Cool, morte mystérieusement en 1978 alors qu'elle menait l'enquête sur Lady Day.
After this person. And clear.
Now.
À Los Angeles, Teresa, Robert et leur fille passent leur journée à monter de petites arnaques pour survivre. C'est la nouvelle comédie de Miranda July, Cajillionaire, titre intrigant pour un film qui ne l'est pas moins.
Most people want to be cajillionaires. That's the dream. That's how they get you hooked. Hooked on sugar, hooked on caffeine.
Alors, cajillionnaire, hein, c'est le mot en argot qui signifie un mot qui signifie milliardaire. Et voilà, donc c'est l'histoire de ces trois personnes, cette famille, Teresa, Robert, leur fille de 26 ans, qui en fait, de famille, ressemble plutôt en fait à un gang parfaitement coordonné. Ils communiquent entre par signes. Ils partagent scrupuleusement leur maigre, très très maigre butin. En trois, et quand leur route va croiser celle de la jolie Mélanie, eh bien leur trio va être mis à rude épreuve. Donc cajillionnaire, ça nous parle de laisser pour compte, hein, voilà, sous le soleil californien, dans une Amérique qui ne tourne décidément plus rond. C'est un film qui questionne les relations familiales, qui montre comment la misère peut assécher les liens ou au contraire les renforcer. Alors Miranda July, c'est son troisième film. Je crois que le premier c'était en 2005. Moi j'aime bien ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui vient de l'art contemporain et elle fait des petites vignettes très. Enfin tout ça est très très étudié. Mais jusqu'à présent c'était un peu sec et j'aime beaucoup. Cajillionnaire, parce que justement, alors c'est original et c'est drôle, ça toujours, mais pour la première fois, c'est un film touchant. C'est comme si, justement, sous ces scénarios complètement loufoques et ces péripéties surréalistes, dont je vous ai raconté qu'une toute, toute petite partie, bah, désormais, elle cachait de vrais sentiments.
Tous les cinémas du monde.
C'est le moment venu du tour du monde de la planète cinéma, Sophie, avec une première étape entre l'Espagne et la Géorgie.
Oui, c'est une façon de dire, en fait, on est un pied sur chaque pays, puisque le palmarès du festival de San Sébastien a couronné un premier long métrage géorgien, Beginning, commencement, de Dea Kulumbegashvili. Coup d'essai, coup de maître hein, pour la réalisatrice géorgienne de 34 ans qui frappe les esprits avec ce film, Beginning, un drame sur fond de fanatisme religieux en Géorgie. Cette fois, on ne parle pas du tout d'islamisme et d'une secte, hein, les témoins de Jéhovah, une famille témoins de Jéhovah qui évolue dans un milieu orthodoxe hostile.
Beginning, qui a obtenu le label du Festival de Cannes, c'était en mai dernier.
Oui, et du coup, Beginning, donc ce film dont on vient de parler, qui a obtenu la Coquille d'Or à Saint-Sébastien, sera projeté à Cannes fin octobre, figurez-vous, car le plus grand festival de cinéma au monde a décidé de tenir une micro-édition symbolique. 4 films de la sélection, dont Beginning donc, seront projetés au Palais des Festivals en présence des équipes. Il y aura aussi un jury des courts-métrages et un jury de la Ciné-Fondation qui délivreront un palmarès. Ce sera entre les 27 et 29 octobre prochains.
C'est mon pays, le Kazakhstan. Le journaliste kazakh, le plus bourrin de la planète, reprend du service.
Et oui, vous vous souvenez sans doute de ce film de 2006 dans lequel Sacha Baron Cohen se faisait passer pour Borat, journaliste kazakh arriéré, mais grand admirateur des États-Unis. Il tournait un documentaire sur le pays, mêlant humour potache et critique en fait au vitriol de la société américaine. Eh bien, Borat est de retour. Amazon Prime a annoncé avoir acheté la suite et devrait la mettre en ligne très prochainement, donc avant l'élection présidentielle.
Et puis en France, cette semaine, les 182 membres du conseil d'administration des Césars ont élu leur direction.
Et c'est un tandem qui fait consensus. Une femme de 70 ans et un homme de 49 ans, l'ex-directrice d'Arte du CNC, qui fait équipe avec un réalisateur à succès. Véronique Kella et Eric Toledano unissent leurs différences pour proposer un tandem de nature à réconcilier les professionnels du cinéma, à refonder l'Académie des Césars, hein, une institution ébranlée, on en avait beaucoup parlé ici, hein, une institution ébranlée depuis de longs mois par des accusations d'opacité, de favoritisme, de sexisme aussi, et ça avait culminé lors de la dernière cérémonie quand avait été décerné le César du meilleur réalisateur à Roman Polanski, accusé, on le rappelle, à plusieurs reprises de viol.
Dernière étape de notre tour du monde, on part à Berlin où l'artiste dissident chinois Ai Weiwei a présenté cette semaine au Parlement allemand son film Coronation, son nouveau film réalisé grâce à des vidéos tourné par de nombreuses personnes à Wuhan, donc c'est cette ville chinoise tristement célèbre, hein, puisque c'est de là qu'est partie la pandémie de Covid-19. Ai Weiwei a ensuite utilisé ses heures de matériaux bruts pour monter son film. À Berlin, l'artiste a rencontré la presse étrangère par visioconférence. Il a critiqué sans prendre de gants le refus des festivals et autres plateformes de le présenter pour éviter, a-t-il dit, des représailles chinoises. C'est un reportage de notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault.
Coronation, en français couronnement, est aussi une construction sémantique, mélange de corona et nation, ou comment les autorités chinoises ont géré la pandémie dans la ville de Wuhan avec une efficacité redoutable, mais aussi grâce aux moyens sans limite d'un système totalitaire. Pour réaliser son film, Ai Weiwei, qui vit en exil, a eu recours à des images tournées sur place, le plus souvent avec des téléphones portables, images qui lui ont été transmises près de 500 heures au total. Coronation commence par des vues aériennes impressionnantes prises par un drone montrant l'énorme gare de Wuhan vide et des dizaines de trains à quai. Dans cette ville où le premier cas de Covid-19 a été diagnostiqué en décembre dernier, les autorités ont nié la réalité d'abord avant d'ordonner un confinement strict fin janvier. Ai Weiwei.
You can see it's not a really criticized.
Le film ne critique pas vraiment la Chine, mais montre combien ils sont efficaces et professionnels. Mais il y a aussi des problèmes. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les hôpitaux si vous voulez prendre des nouvelles de vos proches. L'information ne circule pas.
On voit dans Coronation une responsable du Parti communiste mobilisant le personnel soignant qui lève le poing vaillamment avant de retourner au front. Une mère fidèle du régime se dispute avec son fils qui, lui, le critique. Et dans les hôpitaux géants, des cadavres sont évacués. Après avoir terminé son film, Ai Weiwei l'a proposé entre autres à des festivals, mais Venise et Toronto ont décliné.
Les festivals ne croyaient pas dans un premier temps en l'existence du film. Ils me demandaient « Comment avez-vous pu faire un film comme ça ?» Ensuite, ils l'ont visionné et étaient impressionnés. Le sujet et le timing étaient parfaits. Mais finalement, à ma grande surprise, ils l'ont refusé. Pas seulement des festivals de cinéma, mais aussi des plateformes comme Netflix et Amazon. Ils ont aimé le film avant de le refuser.
Coronation est visible depuis le mois d'août sur la plateforme Vimeo pour 5 euros. Pour Ai Weiwei, le refus d'autres plateformes et de festivals a des raisons politiques, ne pas se fâcher avec Pékin.
C'est un secret de polichinelle que ces festivals souhaitent que leurs films soient montrés en Chine, un marché très important. Les Occidentaux savent que la Chine n'appréciera pas s'ils acceptent un film comme le mien. La Chine pratique la censure et l'Ouest s'incline et soutient par là les principes idéologiques de Pékin. Ça me laisse sans voix.
Des critiques qui rappellent celles formulées contre le film de Disney, Mulan, dont le générique remercie les autorités de la région du Xinjiang, où la minorité musulmane ouïghour est victime d'une répression massive.
C'était un reportage de Pascal Thibault de Berlin pour Tous les cinémas du monde. Générique de fin, au micro Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Fanny Renard.
Rendez-vous la semaine prochaine avec le réalisateur Rémi Chaillet. On parlera de son film d'animation Calamity, Calamity pour Calamity Jane.
Tous les cinémas du monde sur RFI.